à l'assaut des assauts. Outils, portraits, bénévoles, bons plans, actualités, réseaux, formations. À l'assaut des assauts, l'émission sur la vie associative en Mayenne.
À tous, bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette émission à l'assaut des assauts, l'émission sur la vie associative en Mayenne, avec aujourd'hui une émission spéciale qui intervient dans le cadre de la semaine des radios associatives qui se tient à l'initiative de la FRAP depuis le lundi 12 février jusqu'à demain, vendredi 16 février, non jusqu'au 18 je crois, c'est en fait, voilà, c'est toute une semaine et qui qui est mise en œuvre autour de la Journée mondiale de la radio instituée depuis 2011 par l'UNESCO, qui a lieu le 13 février. L'UNESCO qui rend hommage donc à ce média, une des formes de médias les plus fiables, qui entame son deuxième siècle de service. Donc aujourd'hui, merci d'écouter l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. On vient d'entendre une agitée nomade et demain on sera encore hors les murs pour toute cette semaine de radio associative puisque Margot et Lucie feront leur émission quotidienne en direct du centre social de Nulle Part Ailleurs à Cran.
Donc, une émission spéciale autour de ces associations que sont les radios associatives. Une émission en deux parties. Tout d'abord, on va recevoir à notre micro Monsieur Serge Descendi, qui a eu la très bonne idée de nous contacter sur une question de matériel et qui est l'un des fondateurs de Radio Val-de-Loire. Radio Val-de-Loire qui a été une radio associative, en tout cas une radio libre, qui a émis dans la Sarthe autour de la Flèche de 1981-82 jusqu'à 1992 ou 93. Après la fin de son autorisation d'émission. En tout cas, une très bonne idée de nous avoir contactés qui nous a incité, en tout cas qui nous a poussé à faire cette émission spéciale aujourd'hui sur les radios associatives. Donc j'ai reçu Monsieur Serge Descendi la semaine dernière dans les studios de l'autre radio et on a eu un assez long échange très riche sur l'histoire des radios, qui pouvait les fréquenter, comment ça naît, comment ça meurt. Je n'ai pas pu garder l'intégralité de cet échange, mais j'ai essayé de concentrer dans les 5 minutes que j'avais l'essentiel du message dont il était porteur. Et donc, on l'écoute tout de suite au micro de l'autre radio. J'ai eu envie de vous faire venir pour écouter l'histoire des radios associatives telles que nous, les plus jeunes. On ne peut pas la raconter puisque les radios libres... sont arrivés après la période des radios pirates, donc en 81, je n'avais que 2 ans, donc je ne peux pas m'en souvenir, donc c'est important pour nous d'avoir ce témoignage-là. Il y aura dans cette émission un autre temps où il va y avoir un échange entre quelqu'un de France Bleu Mayenne, des gens du conseil d'administration de notre radio qui ont vu la naissance de l'autre radio, et Valentin Beauvalet, qui est le directeur de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Et on parlera de où en sont les radios associatives aujourd'hui et quel est leur rôle. Mais déjà, est-ce que... vous pouvez nous parler un peu de votre parcours radio et si j'ai bien compris, quand vous avez démarré votre engagement radiophonique, les radios n'étaient pas encore libres et il s'agissait encore de radios pirates, je ne me trompe pas.
Alors j'ai l'impression d'être le dinosaure des radios locales. Alors oui, en effet, c'était assez bizarre parce que on s'amusait un petit peu parce que c'était le fruit défendu. Et je fais partie d'une époque où le fruit défendu était toujours... Je ne sais pas aujourd'hui où sont les jeunes, mais ce qui est un petit peu défendu, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Le fruit défendu, c'est... Bon, on est un peu surveillé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on est dangereux ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Et à la limite, bon, c'est une vieille histoire, mais c'est vrai que disons que les radios libres s'apparentaient à quelque chose qui pouvait être dangereux. Et d'ailleurs, dans l'histoire, vous savez, avant 1939, la radio était ce qu'on appelle un moyen de propagande. Et donc, on ne savait pas si on était extrême gauche, extrême droite, extrême quelque chose. En fin de compte, la plupart des gens qui ont fait de la radio à cette époque-là, ils étaient ni extrême gauche ni extrême droite. C'était des gens qui voulaient tout simplement marquer leur différence, et puis que par-dessus le marché, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait que la télévision, on n'avait que le regard, si vous voulez, de ce qu'on appelle de la France entière, mais pas forcément l'univers était restreint. C'est-à-dire la radio dite locale a son importance parce que justement, elle offre l'univers non pas d'une seule voix, mais l'autre voix qui est plutôt communicative et qu'on s'aperçoit que les gens qui vous côtoient juste à côté ont des choses intéressantes à vous dire, à créer, et on s'aperçoit que c'est une richesse qui n'est pas forcément mise au goût du jour. Au goût du jour, c'est justement la radio locale a encore des choses à démontrer, et justement celle-là. Ce qui avait été très intéressant, c'est le micro-trottoir. Alors, on partait avec un micro, moi le premier, j'ai commencé comme ça. Et je prenais le micro-trottoir et je faisais parler les gens. Et c'est là où je venais, comme tout à l'heure je disais, il y a des choses qui sont très intéressantes, y compris même des choses qui pourraient être dangereuses. Mais c'est, après, c'est faut filtrer. Parce que si les gens s'engagent sur un sujet qui, à la limite, aujourd'hui, quels sont les sujets qu'il ne faudrait pas, même en famille, qu'il ne faut pas parler. Et puis, il y a des gens qui se plaignent. Et puis, je dirais que, ensuite, ce que nous avions fait, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si vous le faites aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller dans des villages où il y a très peu d'habitants et on fait parler le maire et les élus. Et c'est ce qu'on appelle, alors, j'ai un trou de mémoire parce que, évidemment, mais ce n'était pas moi qui le faisais là, par contre. Puisque quand on est dans une radio locale, on ne fait pas de la radio tout seul. Hein. Ça, c'est même si je suis l'initiateur de la radio locale, puisque c'est moi qui ai commencé, mais je dirais par hasard, c'est, voilà, on peut dire ça comme ça. Et à la limite, on allait trouver des... Enfin, celui qui présentait l'émission, il allait dans les villages, et c'était radioscopie, ça y est, ça me revient, radioscopie des villages. Et dans la radioscopie des villages, c'est-à-dire qu'il y a les élus, ils vous parlent de l'histoire, ils vous parlent des projets, ils vous parlent d'aujourd'hui, d'hier, et effectivement, c'est un moyen de stimuler la vie de leur village, de dire... puis vous avez les gens qui ne connaissaient même pas leur maire de leur village. Alors,
comment ça s'est arrêté?
Comment ça s'est arrêté? Ah voilà, voilà. Alors ça s'est arrêté parce que, tout simplement, on n'a pas eu la dérogation, comme je disais tout à l'heure.
Oui, donc l'autorisation des maîtres, il n'y a pas eu de prolongation de l'autorisation.
Alors qu'on a été les premiers à être dérogés. Hein. On a été dérogés, je crois, en 82 ou 83. Et donc, on s'est arrêté 10 ans après, puisque la dérogation dure 10 ans. Donc, en 93, on nous a dit qu'il y a un ministre qui était passé par là. Hein, je dirais pas vraiment, puisque disons qu'il était ministre des PTT à cette époque-là. Je sais pas qui c'est, mais il n'était pas très très loin de chez nous. Et bizarrement, comme je n'étais ni de son bord, d'ailleurs je suis de bord, d'ailleurs, et ça continue, hein, je suis ni de gauche ni de droite. Et bizarrement, la dérogation, on n'a pas eu. Par contre, les journaux l'ont eu, eux, au détriment de la nôtre. Ça, c'est curieux, c'est assez drôle. Comme si on n'était pas capable d'abord de tenir une radio, il y avait plus intéressant.
On va faire une petite pause musicale après cette interview, un titre choisi par Timéo, qui était en stage pendant 3 jours chez nous et qui nous a trouvé ce titre de M autour de la radio. Et ça tombe bien parce que hier, c'était la Saint-Valentin, donc ce n'est pas sans rapport.
Faut que je passe dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. Les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
De la journée mondiale de la radio est la suivante, hein, passé remarquable, présent pertinent, avenir dynamique. Et aujourd'hui, nous parlons toujours association, mais radio associative avec nos invités, et j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios des représentants et ou acteurs territoriaux de la radio, locale ou associative. Christophe Feuillet, tu es l'ancien président de la radio L'Autre Radio et fondateur de cette association. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Christophe, passé remarquable, présent pertinent, avenir dynamique.
Allez, on va changer, passé remarquable. Je vous expliquerai pourquoi.
Non, mais moi je sais, tu parles de toi. Tout à fait, nous avons notre totalement talentueux Christophe, vous l'entendrez tout à l'heure, nous parler de la radio. Pascal Fouché, responsable des programmes à France Bleu Mayenne, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Pascal, passé remarquable, présent pertinent, avenir dynamique.
Ouais, les trois à la fois, et puis je rajouterai formidable.
Merci beaucoup. Stéphanie Pacro, bénévole à L'Autre Radio et une voix phare de L'Autre Radio depuis une dizaine d'années, coprésidente de L'Autre Association. Bonjour.
Bonjour Caroline, merci beaucoup. Alors pour moi, je dirais avenir dynamique. Tu ne me poses pas la question, mais je te réponds quand même.
Non, tu me prends le coup.
Je dirais avenir dynamique parce que ça fait 20 ans que je n'ai pas de télé. Donc ça fait 20 ans que j'écoute la radio et je crois que j'y crois encore plus aujourd'hui qu'hier. Ouais.
Merci Stéphanie. Delphine Gatineau, membre du conseil d'administration de L'Autre Radio, en qualité de trésorière et d'ancienne coordinatrice qui a été là au tout début de la radio, donc qui a donné son élan sur le 107.9 et sur le 101.7. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, passé remarquable, présent pertinent ou avenir dynamique?
Alors, j'avais aussi envie de répondre à avenir dynamique. Je crois beaucoup aux médias radio comme grands médias, du coup, en France. Voilà.
Merci Delphine. On a aussi en distanciel Valentin Beauvalet, directeur de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, fédération de 23 radios associatives, c'est ça? Parfois je pense 13, je ne sais pas pourquoi c'est un... Voilà. à laquelle nous sommes adhérents. Bonjour Valentin.
Eh ben bonjour, merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir. Valentin, passé remarquable, présent pertinent ou avenir dynamique?
Ben moi, je suis comme Delphine, je suis avenir dynamique pour la radio, mais même Delphine, c'est pour la France, moi c'est à travers le monde.
Ah ouais. Ouais, c'est beau, hein. Aujourd'hui on va parler de choses sérieuses. Merci beaucoup, Valentin. Donc, un petit mot donc voilà sur cette thématique. Ici, là, on a des représentants des radios locales et des radios associatives. Quelle est la différence? Quelle différence on peut faire entre radio locale et radio associative? Alors, je m'adresse à un représentant des radios locales, peut-être ouais,
si vous
Pascal.
Voulez. Alors, je connais aussi bien le monde associatif, hein, parce que j'ai commencé en radio associative. J'ai 10 ans d'expérience dans une radio associative dans une autre région. Où je me suis éclaté, où je me suis passionné. Et c'est cette aventure qui fait qu'aujourd'hui, je travaille dans une radio de service public, France Bleu Mayenne. Il y a des différences. Alors, il y a énormément de différences. Même s'il y a des liens, des points communs entre les radios, je pense que dans ces deux styles de radio, dans le service public et puis en associative, il y a des gens passionnés. Ça, c'est ce qui fait un petit peu l'unité. Et puis après, il y a la volonté d'informer. Je pense que les radios associatives ont cette volonté. Mais une radio associative, ça peut être très varié. Il y a des radios associatives communautaires, il y a des radios associatives musicales, il y a des radios associatives territoriales, religieuses également, où on peut vraiment donner un axe à une radio associative. Il peut y avoir des radios associatives d'opinion aussi. Et la radio de service public, Radio France, Elle a un rôle de service public avec des missions bien précis. Et justement, par rapport à cela, c'est là où on voit la différence. Et puis après, c'est vrai que c'est pas non plus les mêmes financements, c'est pas les mêmes professionnels également, c'est pas les mêmes équipes. C'est ce qui va faire en gros la différence entre radio associative et radio de service public.
Voilà, qui sont toutes les deux des radios locales, Pascal Fouché. Donc vous connaissez un peu les deux versants, radio
bien
de service
sûr.
Public, radio associative.
Il y a cette notion de proximité qui est hyper importante. Mmh. Mais après, ça va être les publics. Peuvent être différents.
Alors, les auditeurs et l'émission.
Exactement.
On va en parler.
Exactement.
Aussi.
On n'est pas du tout sur les mêmes fondamentaux. C'est-à-dire que sur une radio associative, on va pouvoir peut-être prendre des risques, on va pouvoir faire plus de découvertes. Le rôle de la radio de service public, c'est de toucher un maximum de personnes sur le territoire, en l'occurrence pour France Bleu Mayenne. Et après, ça va être aussi d'apporter des informations neutres, objectives. Alors, les radios associatives aussi, mais pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a des radios associatives qui n'hésitent pas à être des radios d'opinion, par exemple. Et c'est aussi important. Enfin, voilà, où on permet à des personnes de s'exprimer. Après, il n'est pas rare d'entendre les mêmes personnes devant les micros de l'autre radio et à France Bleu Mayenne.
Oui, c'est pas du tout clivé.
Par rapport aux invités. Hein,
voilà, tout à fait. J'avais envie aussi de demander à Christophe Feuillet. Donc Christophe Feuillet, membre du conseil d'administration de l'autre radio, l'un des fondateurs de l'autre radio. Pour toi Christophe, quelle différence tu fais entre une radio associative et une radio locale, mais qui est une radio de service public?
On peut se tutoyer, Caroline,
oui,
effectivement.
Tout à fait.
Pascal l'a déjà très bien expliqué. Alors au niveau administratif, il faut rappeler que l'ex-CSA qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM fait bien la distinction entre les radios. Nous, on est radio de catégorie A, c'est-à-dire qu'on est en partie subventionné, qu'on peut faire un petit peu de publicité. Un choix que n'a pas fait d'ailleurs l'autre radio. On a des missions de service public, mais comme le rappelait Pascal à l'instant, ça peut être des radios communautaires. Donc j'ai connu quelques radios associatives qui se contentaient d'avoir entre guillemets des playlists. On a une obligation vis-à-vis de l'ARCOM, c'est d'avoir au moins 4 heures de programme d'intérêt local, mais il y a des radios qui se contentent entre guillemets, et ça c'est pas péjoratif hein, quand je le dis, de passer du jazz parce qu'ils adorent le jazz, ou de la funk parce qu'ils adorent la funk. Mais nous, on a fait le choix effectivement à l'autre radio d'être en proximité, puisque c'est un petit peu comme ça aussi qu'on est né. On est né autour d'un festival de musique actuelle et on a couvert des événements locaux, comme à l'époque la fameuse course du Haut-Anjou, une course cycliste, mais qui nous avait permis de nous apercevoir qu'il y avait beaucoup d'habitants qui avaient envie de parler d'eux. Au départ, on leur parlait de vélo et puis finalement, ils nous ont parlé de leur maison, de leur mur, de leur famille. Donc on s'est dit, il y a effectivement un potentiel. Donc en Mayenne, on le rappelle, France Bleu Mayenne est le numéro 1. Et puis c'est très bien, ils font très bien leur travail. Puis on se dit, entre eux et les radios commerciales, il y a un petit espace qu'on a envie d'occuper pour donner la parole. À chaque fois, je le dis, désolé.
On reparle.
De donner la parole, effectivement, à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre.
Merci beaucoup, Christophe Feuillet. J'ai envie de poser la même question à Valentin Beauvalet, donc directeur de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, qui regroupe 13 radios associatives. Valentin, quelle différence tu ferais, toi, entre radio locale et radio associative ?
Alors, tout ce qui a été dit jusqu'à présent est très intéressant. Il manque autour de la table et dans la discussion des radios commerciales. Je pense que c'est important de connaître les radios commerciales qui sont aussi pour certaines des radios locales, mais qui ont comme objectif de faire beaucoup d'audience et de vivre par la publicité pour comprendre que les radios associatives, elles représentent face à ça le pluralisme sur la bande FM. Et toutes ces radios-là vivent en harmonie avec chacune une mission bien différente. On comprend bien la différence entre Radio France et les radios associatives, mais les radios associatives ont aussi été créées pour apporter ce pluralisme, cette petite différence, ce lien de proximité qui permet le mode de financement de la subvention et les missions qui y sont associées, comme vous dites très bien.
Merci beaucoup Valentin pour cette précision. Effectivement, on n'a pas de représentant des radios commerciales aujourd'hui. Voilà, mais du coup...
des radios locales, c'est ça que je voulais
oui,
dire.
Oui, tout à fait, mais tu fais bien de le préciser. Non, on a bien 13 radios à la frappe.
Il y en a plus.
Il y en a plus. Voilà, c'est parce que en fait Christophe Feuillet me fait passer un petit pour me dire que je me trompe sur les chiffres et que c'est pas plutôt 23,
alors,
me dit-il.
Alors rectification,
c'est 23.
C'est ça. Je me suis trompée d'une dizaine. Excusez-moi, je rajeunis tout le monde en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ça doit être une habitude. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Valentin. Du coup, pour aborder cette question effectivement des auditeurs, Pascal Fouché nous disait tout à l'heure, les radios de service public et les radios associatives, on n'a pas forcément les mêmes missions, mais pas forcément les mêmes auditeurs, même si ça peut se recouper. L'objectif de la radio de service public, ça va être d'avoir un maximum d'auditeurs, de toucher un maximum de gens, également pour les radios commerciales locales, puisque il y a aussi ce lien à l'annonceur, et donc on a d'autant plus de possibilités de soutien financier qu'on a d'auditeurs. Donc l'évaluation quantitative, en tout cas, c'est la mesure d'audience. Quelle est la mesure d'audience de France Bleu en Mayenne, Pascal Fouché ?
Purée, je devrais le savoir par cœur. je suis désolé, je vais plus m'en souvenir. On est à plus de 40 000 personnes qui nous écoutent tous les jours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation en Mayenne assez confortable. Mais ça bouge, enfin, le monde de la radio bouge. Il y a de moins en moins de personnes qui écoutent la radio en France. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, la radio, elle a besoin de se renouveler aussi. Et on doit sans cesse aller chercher de nouveaux auditeurs. Sauf que les nouveaux auditeurs, aujourd'hui, ce seraient les jeunes. Mais les jeunes, on sait très bien qu'ils ne sont plus forcément attirés par ce média. Ils s'informent autrement. Et l'idée, c'est comment aujourd'hui, on peut les sensibiliser, comment on peut leur dire qu'on existe, comment on peut les intéresser dans nos programmes. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y a une grosse réflexion aujourd'hui en monde de la radio, toutes radios confondues, les commerciales, les associatives, je pense le service public. Il y a une vraie réflexion par rapport à cela. On parle des auditeurs, on pourra en revenir, mais moi, je pensais aussi il y a quelque chose qui est très important entre une radio associative et puis une radio de service public, c'est que la radio associative permet à des gens passionnés, à des amateurs, de prendre le micro. Et on peut, j'imagine, avec un projet, venir faire une émission musicale ou une émission culturelle sur l'autre radio.
C'est tout à fait ça.
Et alors que on peut envoyer un projet en effet à France Bleu Mayenne, ce sera plus compliqué parce que les personnes qui sont au micro sont des professionnels et des personnes qui sont donc engagées, embauchées par Radio France.
Tout à fait, on va y revenir sur le côté participatif, mais du coup j'ai aussi envie de poser la question là à Delphine et Stéphanie, donc Stéphanie Pacro, Delphine Gatineau qui sont membres du conseil d'administration. Quels sont les autres critères pour les radios associatives d'évaluation de la radio qui ne soient pas des critères quantitatifs, puisque nous, on n'a pas de chiffres à donner, en fait. sur quels critères on peut évaluer la qualité, plutôt, de notre activité ?
Delphine, tu as envie de commencer ?
Moi, il y a plein de choses qui me viennent un peu en tête, mais j'ai envie de répondre tout d'abord de l'envie de participer aux médias, en fait. On peut sentir une accroche par nos bénévoles, par les gens qui ont envie de faire de la radio. Voilà, pour ma première réponse, et je pense que c'est la plus... celle qui est la plus motrice, en tout cas, pour les radios associatives. Et puis sinon, on peut faire gagner des jeux, par exemple. Du coup, on peut avoir des retours par les réseaux sociaux, par des contacts.
Moi, je pense aussi à tous les moments où les événements font appel aux radios associatives. Oui. C'est comme ça aussi qu'on peut mesurer l'importance qu'une radio associative a sur le territoire. À l'autre radio, on est quand même beaucoup appelé pour couvrir un événement ou participer à un événement. En tout cas, j'ai ce sentiment-là.
Après, à France Bleu aussi.
Évidemment, mais il y a des professionnels pour mesurer tout ça.
Après, évidemment, sur une radio associative, on va entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant sur le panel justement des radios aujourd'hui. Quand on écoute les radios commerciales, on a quand même l'impression qu'on écoute toujours la même chose, quasiment le même ton, on a même les mêmes publicités sur une radio associative. Évidemment, on va écouter autre chose, quelque chose de différent et qui peut nous
ouvrir. C'est vraiment
aussi,
des histoires de lignes éditoriales qui sont un peu différentes. Ouais.
Exactement.
Et de formatage aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup moins formaté dans les radios associatives, puisque en tout cas, c'est le choix de l'autre radio, c'est de laisser le bénévole, la personne qui a envie de se saisir de l'outil radiophonique, d'en faire un objet un peu comme il veut, et puis d'y venir, de s'y amuser et puis d'y progresser. C'est ce qu'on essaye de faire aussi.
Et de manière peut-être amatrice, sans que ce terme soit péjoratif, mais il y a vraiment ce côté aussi amateur professionnel et l'envie de se tester, de travailler du coup son oral.
Et le côté format, effectivement, est très important, puisque dans le service public, vous avez des bibles, des top horaires, vous savez que vous devez terminer effectivement pile poil à l'heure, alors qu'on a toujours dit, par exemple, à l'autre radio, que s'il n'y a rien, évidemment, après à 14h, tu débordes d'un quart d'heure avec ton invité, c'est pas un souci. Donc vous avez des contraintes, ce qui est bien compréhensible dans le service public, qu'on n'a pas en radio associative, pour des raisons...
Alors ça dépend lesquelles. Je ne sais pas si Valentin pourra confirmer, il y a des radios où les programmateurs sont très stricts.
Oui, il y a les top horaires, ça existe dans certaines radios. Il y a même des radios où le podcast se déclenche automatiquement. Donc si vous continuez, très bien, mais... donc tout est possible en radio.
C'est de la censure, monsieur les censeurs.
On parlait du coup de ligne éditoriale, et justement, parce qu'en posant cette question, je pensais aussi à un certain nombre de thématiques que nous avons à traiter et qui peuvent aussi faire partie de l'évaluation qualitative des radios associatives. En tout cas, c'est aussi ça qu'on fait valoir auprès de nos financeurs, la diversité des champs qui sont traités. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de radios spécialisées dans le jazz ou dans tel domaine. En tout cas, dans les radios associatives, on a aussi cette contrainte et cette liberté de traiter toutes les thématiques. Est-ce que tu peux confirmer, Delphine, que ça fait partie de la ligne éditoriale des radios associatives ?
En tant que radio, du coup, associative subventionnée, on a effectivement des critères auxquels on doit répondre, qui sont un peu des critères de service public. C'est là, on retrouve un peu le fondement commun avec des radios locales et de service public. Pour le coup, ces critères, ils sont de plusieurs sortes. Ça va être de lutter contre les discriminations, de mener des actions en faveur de l'environnement, des actions éducatives, culturelles, des enjeux de service public, il me semble.
Voilà. Avec cet ancrage local, et donc j'ai envie de passer à ce point suivant, cet ancrage local qu'ont aussi les radios de service public ou les radios commerciales qui sont implantées et qui diffusent localement, mais cette obligation l'obligation d'être, comme tu le disais Christophe Feuillet, tout à l'heure sur du contenu local, mais nous aussi avec tout un maillage sur la vie associative et un ancrage très fort sur le territoire. Je ne sais pas si ça vous parle, Stéphanie. Le local, pour moi, c'est un peu toi.
D'accord, pourquoi ?
Parce que tu connais bien. Parce que tu y crois, parce que tu y participes.
Ah
en tant que membre du conseil d'administration et bénévole porteuse d'une émission, du coup...
Oui, avant d'être membre du conseil d'administration, j'ai commencé par être bénévole à l'autre radio, à avoir ma propre émission. Christophe Feuillet le disait tout à l'heure... L'idée de l'autre radio quand elle est née, c'est aussi de donner la parole à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. À l'autre radio, ça reste vraiment une de nos valeurs. Donc c'est aussi ça, aller se balader sur les territoires, aller tendre le micro à pas forcément à des personnes qui ont une parole très construite ou qu'on entendrait sur des radios où le format est plus formaté, en tout cas. Voilà ce que je peux dire par rapport au territoire. Et puis on essaye en tout cas, on a à cœur, je pense, à l'autre radio on demande en tout cas à Margot dans la JT du local d'aller essayer de rayonner sur toute la Mayenne et puis de sortir de Laval et de Château-Gontier, de faire autre chose, d'essayer de se rendre visible aussi. C'est ce que Margot et Lucie font pendant la semaine des radios associatives, de délocaliser l'émission, parce que la radio, on l'entend, on l'écoute, et puis quand on la voit, peut-être ça donne un attrait à tout ça. Mmh. Voilà.
Tout à fait, et avec cet outil hein, qui est aussi au service du territoire. Alors, je ne sais pas si les radios de service public se voient dans cette mission-là.
Bah si, non, mais c'est vrai qu'en plus, France Bleu Mayenne, c'est quand même très particulier parce qu'on a plus de 40 ans. On est la première radio à être implantée dans le département. Donc, historiquement, c'est vrai que quand on parle de territoire, ça veut dire quelque chose. L'idée d'une radio locale, pour moi, c'est qu'est-ce qui intéresse les Mayennais, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre? Ils ont envie qu'on parle de chez eux quand on fait la météo, le trafic, quand on parle des associations, de la vie politique, de la vie de leur commune, etc. Ils ont envie d'entendre ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va intéresser les auditeurs Mayennais? Et on est vraiment axé sur eux et on est aussi présent à côté d'eux. C'est-à-dire que bon, on a une grande équipe à France Bleu Mayenne, ce qui fait que tous les jours, il y a des gens qui sont sur le terrain et qui vont à la rencontre des Mayennais et qui leur tendent les micros. Le matin, on a Route 53 avec Benoît qui est vraiment un lève-tôt et qui va à la rencontre. Et ça, c'est tout au long de la journée. Et pour nous, ça, c'est quelque chose de très, très important que tout au long de la journée, on entend bien qu'on est une radio de proximité.
Alors nous, on est aussi une radio de proximité à l'autre radio, mais c'est vrai que je crois que là où ça nous fait plaisir, et on en parlait tout à l'heure, c'est quand c'est les habitants qui tendent le micro à d'autres habitants, et c'est ce que tu disais Delphine, cette idée de plus les gens adhèrent au projet et se saisissent de l'outil, plus on a l'impression d'avoir réussi notre mission.
Je pense que oui, effectivement, la force d'une radio associative, c'est de mettre à disposition du coup aussi un outil, et en l'occurrence un outil média, enfin voilà, où la parole a du sens, où elle peut être entendue. Pour le coup, enfin voilà, c'est vraiment encore une fois un outil à disposition des habitants aussi, ouais.
Je lisais récemment une enquête qui a été menée par la CoreLab, donc on peut aussi en parler avec Valentin, qui s'appelle « Quelle utilité sociale pour les radios associatives ?», dans laquelle justement toutes ces questions sont posées, ces questions de l'ancrage territorial, de l'évaluation du rayonnement d'une radio associative. Il n'y a pas que le critère de mesure d'audience, qui est un critère quantitatif, alors qu'on est vraiment sur complètement un autre champ, qui est plutôt un champ où on est dans un rôle social, de mettre en réseau les acteurs, faire du lien entre les différentes associations, offrir une vitrine aux petites associations, aux émergents culturels pour se tester, mais également permettre aux auditeurs et aux bénévoles qui se lancent dans la radio de désacraliser un rapport aux médias et de se saisir d'une information avec ce côté information qui remonte, c'est-à-dire parole qui peut être écoutée par les élus, alors que dans d'autres radios, on aura peut-être plus une information descendante. Voilà. En tout cas, c'est assez intéressant. Valentin Beauvalet, directeur de la FRAP, peut-être toi, tu peux nous dire aussi combien de bénévoles bénévoles, si tu en as une idée, ça représente les 23 radios associatives des Pays de la Loire.
On est 1400 bénévoles sur l'ensemble des radios de la FRAP pour une centaine de salariés et une centaine de services.
Alors, j'ai pas entendu le chiffre, est-ce que tu peux répéter ?
Pour les bénévoles,
ouais. 1400 bénévoles. Wow. 1400 bénévoles, c'est pas mal.
Et je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais avant sur l'utilité sociale des radios associatives. Moi, je pense que c'est important par rapport à toute la discussion qu'il y a eu depuis le début de l'émission d'être capable de quantifier, d'apporter des outils de compréhension de ce que ça représente une radio associative. Et effectivement, les mesures d'audience telles qu'elles sont faites en France, avec une mesure qui est une mesure nationale, faite d'appels téléphoniques et un réseau de radio associatif qui est présent sur tous les territoires, dans toutes les zones, y compris pour certaines radios vraiment dans des zones rurales. Et vous, à l'autre radio, il y a deux fréquences, mais il y a certaines radios qui n'ont qu'une fréquence en zone rurale. On peut pas quantifier l'audience de ces radios-là. Par contre, les radios associatives ont un vrai rôle à jouer sur leur utilité sociale. Et ça se quantifie. Et quand on a des ateliers d'éducation média, comme c'est le cas à l'autre radio, quand on a autant de bénévoles, quand on a autant de plateaux extérieurs, quand on a autant de personnes qui passent dans les studios, c'est des choses qu'il faut être capable de quantifier et de valoriser pour montrer ce que c'est l'utilité d'une radio associative sur le territoire. Mmh. Et effectivement, le nombre de bénévoles, c'est un chiffre, on peut dire là au de la frappe, mais il y a tellement d'autres chiffres très impressionnants et très importants qui doivent être mis en...
Oui, alors dans les autres chiffres, je pense que c'est juste que, je ne sais pas si tu aurais pu nous répondre, mais du coup dans cette étude qui a été menée par la Corlab, qui est l'équivalent de la FRAP sur la Bretagne, il y a le nombre de collectivités territoriales partenaires, le nombre d'associations partenaires, l'inscription dans les réseaux locaux, qui vont être des réseaux d'éducation, d'économie sociale et solidaire, des réseaux d'éducation populaire ou des réseaux de culture. Voilà, donc ça c'est autant de chiffres qui vont montrer donc l'ancrage territorial et le rôle de fédérateur en fait des radios associatives, en plus des chiffres bénévoles. Avec cette idée... Oui, vas-y, je t'en prie.
Cette étude, l'important, il y a deux choses qui sont importantes dans cette étude de la Corlab, c'est d'être capable de définir l'utilité sociale d'une radio associative. Tout ça, on est en lien avec une collectivité, on fait de l'éducation aux médias et ça peut être des détails plus précis. C'est important pour expliquer l'utilité sociale d'une radio associative. Et ensuite, cette étude, elle est à utiliser par les radios associatives elles-mêmes pour se positionner dans leur fonctionnement et des fois pour avoir des idées. Et il y a quelque chose de très précis qui a montré cette étude-là, qu'elle n'avait pas été montrée avant, c'est le rôle social des studios des radios associatives. Mmh. Et ça a changé certaines pratiques, y compris dans des radios de la FRAP qui avant s'étaient jamais posé ces questions-là, de se dire quelle est l'utilité de mon espace bureau et comment je peux l'aménager, parce qu'en fait c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il y a des gens qui se croisent, qui échangent, et peut-être que créer un espace pour qu'ils puissent se poser et échanger, ça fait partie de notre mission. Et ça, c'est un petit exemple qu'a montré l'étude de la Corlab, et qu'il y a eu un gros changement sur certaines radios qui, tout d'un coup, ont installé une bibliothèque et une discothèque par rapport à tout ce qu'elles reçoivent tous les jours et une machine à café accessible à tout le monde. Et ça a changé tout d'un coup le dynamisme de la radio, mais aussi le mettre en avant, c'est montrer que là, à cet endroit précis, dans cette ville, il se passe quelque chose dans les locaux de la radio qui sont ouverts à tous.
Tout à fait. Alors, je crois que Stéphanie voulait réagir à ce que tu disais.
Non, je ne voulais pas réagir, mais ça me parlait beaucoup, puisque nous essayons à l'autre radio de créer cet espace, qu'on n'y est pas encore, mais qu'on a des idées.
Allez, on manque d'espace.
On manque d'espace, mais ça va venir, j'espère. Et on a des idées à proposer aux bénévoles actuels, aux futurs bénévoles, j'espère, justement pour créer un lieu de rencontre et
un lieu, un endroit où on puisse se poser.
Alors après, oui,
pour qu'il y ait des synergies qui se croisent et que ce soit encore plus dynamique, puisqu'on a dit avenir dynamique.
Tout à fait. Alors après, oui, il y a cette possibilité de rencontre physique, mais on participe beaucoup aussi puisqu'on a un réseau de partenaires associatifs qui est assez important depuis les 15 ans qu'on émet sur la Mayenne, avec des proximités avec certains acteurs culturels ou certains acteurs sociaux, des adhérents en partenaires, et on participe aussi à la mise en réseau de ces acteurs-là. On est labellisé depuis octobre 2023 guide asso information, et dans nos missions il y a aussi la possibilité d'orienter des bénévoles qui chercheraient des structures où s'investir, de mettre en relation des associations qui rencontrent les mêmes problématiques ou qui ont le même objet social pour qu'elles puissent se mettre en synergie. Et donc toute cette idée de maillage, de rencontre qui n'est pas forcément de la rencontre physique, mais au moins de la rencontre de réseau.
D'un maillage associatif, oui.
Tout à fait. Donc on participe vraiment à ça. Après, il y a voilà, toute cette idée de tremplin aussi pour les associations, de prendre la parole, peut-être pour la première fois au micro, de se confronter à l'interview, en tout cas pour nos invités, de se tester à la radio, mais aussi pour nos bénévoles, de se tester à l'interview, et également pour nos professionnels, parce que nous avons 5 salariés à l'autre radio, et Pascal Fouché de France Bleu Mayenne le soulignait bien tout à l'heure. Commencer par la radio associative, c'est une...
C'est un tremplin, c'est clair. Hein, ouais. C'est clair. Et on constate hein, depuis le début qu'on discute, on a des missions similaires. Hein, mais après, c'est vraiment en fonction des radios associatives. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, l'émission de Radio France et du service public ici, c'est informer, éduquer, cultiver également et divertir. C'est ce que vous faites aussi. Et après, nous, on a aussi quand même des conventions, des obligations avec les services de l'État. J'aime bien rappeler ça aussi. C'est-à-dire que nous, on doit être capable à tout moment d'intervenir, prendre l'antenne en cas de problème catastrophique, accident, peu importe, enfin on va pas dramatiser, mais en tout cas on doit être capable d'intervenir à tout moment, prendre l'antenne sur une demande de la préfecture. Ce qui s'est fait une fois il y a pas longtemps avec l'évacuation de la ville de Laval.
Oui,
au moment
des
éliminations, exactement, avec l'alerte à la bombe, il a fallu, enfin voilà, sur demande de la préfecture, il a fallu qu'on prenne l'antenne pour lancer des messages réguliers. Donc c'est vrai que le jour où il y a une catastrophe, on a ce devoir, et donc on a le matériel qui permet à tout moment de pouvoir intervenir. Coupure d'électricité à Laval, on doit être capable de faire de la radio. C'est le rôle aussi du service public, et ça fait partie des engagements.
De informer les exactement. Informations de première urgence.
Tout à fait.
C'est vrai que le 2 décembre, nous, on n'a pas fait ça.
C'était nos 15 ans.
C'est ça. On était en plein anniversaire.
Ouais. C'est ça. On n'était pas en train d'informer sur ce sujet.
Non, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, les radios locales, enfin locales, mais d'État, on se roule, hein, ouais. Qui est important.
C'est très important.
Oui, puisqu'il s'est fait, voilà, je pense à des catastrophes à ZDF, quand il y a eu les tremblements du côté du sud de la France, ou des catastrophes naturelles, je pense à des tempêtes de neige, des choses comme ça, ou des inondations dans certains secteurs. C'est vrai que ce sont les radios qui, pendant 24 heures, parfois même 48 heures, ont travaillé sans s'arrêter, quoi. Et ça fait partie de leur mission, de leurs engagements, quoi.
C'est ce qu'on peut appeler aussi de l'information de proximité, de première, enfin pas de première nécessité, mais de première urgence, effectivement.
Oui, tout à fait, parce que les messages sont là, et nous on relaie justement les informations des secours qui peuvent intervenir plus facilement, quoi.
Bah, y a une forme d'astreinte effectivement du service public, une contrainte qui ne pèse pas effectivement sur le monde associatif. Je me souviens notamment que pour nos 10 ans fêtés à la SCOMAN, une de vos anciennes directrices, Anne-Marie Amoros, n'avait pas pu se rendre dans nos studios sur consigne de la préfète ou du préfet de l'époque pour des raisons de sécurité, parce que je croyais qu'on vivait une période un petit peu troublée. Elle avait eu l'amabilité d'ailleurs de nous répondre par téléphone. Mais effectivement, il y a des contraintes complètement différentes entre le monde associatif et le service public.
Non, on va délivrer une autre forme d'information locale qui ne sont pas justement ces informations d'urgence, mais plutôt d'outils au service des habitants et aller sur d'autres champs en tout cas. Quand on parle de radio associative, on parle souvent de radio libre. Donc là, on quitte le local, mais on va vers la liberté. Alors, est-ce qu'on
ça
est totalement
libre? Ça reste local pour autant. Les radios associatives
est-ce qu'il y a
sont locales.
Mais du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on peut dire ça, qu'on est complètement libre? Qui décide les programmes? Qu'est-ce que c'est la liberté des radios associatives, en fait?
Attends, je vois Christophe qui fait non, alors je préférerais qu'il réponde avant.
Alors, quand je dis non, sur le terme radio libre, effectivement, bon, on appelait avant, il y avait les radios pirates, en 81, ça s'est un petit peu libéralisé. il y a une fin de monopole. Radio libre, c'est dangereux. Radio associative, parce que tout le monde peut s'y impliquer, quelle que soit sa couleur politique, idéologique. On a des obligations à l'antenne, c'est-à-dire que quelqu'un qui va tenir des propos injurieux, sexistes, racistes, eh ben, il sera condamné par la loi de la même manière que n'importe qui d'autre. D'ailleurs, ça sera peut-être les responsables de l'association qui prennent aussi de risques en laissant s'exposer.
Qui sont les responsables des contenus. Hein.
Voilà, exactement. Donc, et puis une radio associative, à mon sens, elle doit être écoutée par tous ceux qui ont envie. Nous, on a toujours dit à l'autre radio, bon, on émet 24h sur 24, 7 jours sur 7, il faut que chacun puisse y venir à un moment piocher ce qu'il a envie d'entendre. Évidemment, moi j'écoute pas moi, le premier, hein, une radio 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais s'il y a une grille des programmes que je connais, je vais aller piocher tel ou tel contenu. Donc radio libre, ça peut avoir des dangers, notamment on a toujours dit qu'on n'était pas un porte-voix de tel ou tel parti politique, de telle ou telle sensibilité, chacun a les siennes, on peut être connoté, voilà. Mais on a eu dans le passé certains bénévoles qui avaient tendance à utiliser un petit peu le micro comme leur défouloir, et ça peut être un danger. Donc plutôt que de radio libre, alors qu'effectivement on a une liberté, mais qui n'est pas totale, qui est soumise au règlement, je préfère parler de radio associative, festif, inclusif.
Stéphanie,
voilà pourquoi je voulais laisser la parole à Christophe. Non, je suis d'accord avec toi, Christophe. C'est-à-dire que c'est les radios associatives, en tout cas celle de l'autre radio qui est la seule que je connaisse. C'est une radio libre dans le sens où on a la liberté, dans le cadre de la loi, de s'y amuser, de venir informer, de venir se former. Voilà, en tout cas.
Valentin, je réfléchissais au profil des radios associatives au sein de la FRAP. Donc la liberté, ça peut être aussi la liberté d'être une radio confessionnelle, puisqu'il y en a dans les radios associatives.
Oui.
Voilà. Donc ça peut être aussi cette liberté.
Oui, alors je ne sais pas par rapport au terme liberté, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs formats, grands formats de radios associatives. Il y a les radios confessionnelles, il y a les radios étudiantes, il y a des radios qui sont plutôt nées dans des centres sociaux, certaines dans des établissements scolaires. Voilà, il y a des grands formats comme ça que l'on retrouve dans différentes villes, et puis après des histoires un peu particulières d'une personne qui s'est lancée sur une thématique, sur un sujet, sur une façon de voir les choses, et qui a rassemblé ça fait des médias associatifs.
Et du coup, c'est peut-être la liberté de prendre cette initiative
radio libre, c'est les radios qui se sont créées en 1981. Alors, on a dit libéralisation, mais moi je dirais plutôt libération des ondes suite à une période allant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de monopole de services publics et d'avoir seulement des radios qui émettaient depuis l'extérieur de la France, qui sont aujourd'hui les grandes radios nationales. Les radios associatives revendiquent quand même d'être les héritières des radios libres, mais effectivement elles sont très très encadrées et elles ont une mission très précise, mais qui leur permet d'exister et de continuer à exister. Quand on va avoir des émissions ou des articles sur le terme radio libre, on va aussi ramener les radios qui sont aujourd'hui des grands réseaux de radios commerciales, parce qu'elles sont aussi issues de cette histoire d'ouverture des ondes et de distribution des fréquences à tout un tas de projets après 1981.
En tout cas, la possibilité d'avoir un autre discours.
Le radio libre est quand même très très lié à cette période qui est quand même l'histoire.
Des radios pirates aussi, qu'on appelait ça. Pirates et libres. Merci beaucoup, Valentin. En tout cas, ce qui ressort, c'est la liberté, en tout cas, de prendre la parole et la liberté de ton. On n'est pas effectivement dans un espace forcément normé, donc il y a beaucoup de diversité de voix dans les radios associatives.
Et de sons, parce qu'on n'a pas parlé de la musique, mais c'est vrai que quand on écoute l'autre radio, on entend des sons différents que ce qu'on peut entendre sur la bande FM en règle générale.
Voilà.
C'est la liberté de contenu, du coup, enfin, ouais. Qu'il soit du coup musical ou autre. Ouais.
ce qu'on appelle un laboratoire d'expérience. J'ai vu ce terme plusieurs fois, donc intéressant, je trouve, parce qu'il recoupe à la fois des modèles de fonctionnement un peu alternatifs, de projets. Effectivement, tout ce côté un peu éducation populaire, avec la dimension participative des acteurs locaux, des habitants, des partenaires, etc. L'ancrage dans le monde associatif, qui est aussi un monde très riche et qui est un monde qui emploie. Et puis, ce côté possibilité de découverte et de prescription, enfin, entre guillemets, de tout ce qui est contenu culturel. En tout cas, on est très ancré sur cette dimension-là à l'autre radio, c'est vrai.
Mais la difficulté, c'est que l'expérimentation ne doit pas être excluante.
Non, tout à fait.
Et c'est là où c'est hyper difficile, quoi, parce que voilà, on peut expérimenter des choses et puis à un moment donné, se couper de nos auditeurs, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je peux ressentir, quoi, en tout cas.
En tout cas, on est à l'écoute, hein. On a un répondeur auditeur où les gens s'expriment. Parfois, on nous laisse des messages sur les contenus qu'on diffuse, sur la musique, sur des contenus. Et on essaye au maximum d'être... qui dit radio associative dit fonctionnement associatif. Donc, avec un collectif d'adhérents et de bénévoles qui participent à la vie démocratique. Et donc, c'est une belle expérience de citoyenneté. Et en tout cas, dans le monde associatif, c'est ce qui est valorisé. Aussi, c'est de découvrir le fonctionnement collectif. C'est un projet collectif, hein, la radio et l'association. Et donc, c'est très formateur. Et j'espère qu'on va réussir à rajeunir nos profils d'adhérents. C'est en train de se faire.
Merci pour nous.
Non, mais c'est très bien. C'est vrai que la radio associative, notamment l'autre radio, on voit bien la force du collectif. C'est les bénévoles qui sont... Alors, bien sûr, il y a les salariés, ils sont indispensables. On apprécie énormément qu'il y ait la quotidienne avec Margot. Mais on a aussi les forces vives, la soixantaine de bénévoles de l'autre radio qui viennent faire du contenu. Et sans eux, peut-être que le ton serait plus formaté. Voilà. Donc, c'est eux aussi qui amènent leur passion, leur découverte et leur envie de s'exprimer sur des sujets qui vont parler à leurs amis et puis peut-être un peu plus et ça va s'étoffer. Voilà.
La diversité.
C'est ça.
Et la co-construction.
Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt parce que l'autre radio travaille beaucoup et depuis longtemps avec des jeunes. Et ben les jeunes, quand ils rentrent à la maison, ils parlent à papa, maman, mamie, papy va les écouter. Il y a des gens qui nous écoutent à l'autre radio, qui ne l'auraient jamais fait spontanément, mais parce que les petits-enfants ou les enfants y ont participé, ils vont devenir des auditeurs fidèles. Donc c'est...
Oui. Les actions EMI participent beaucoup en tout cas à sensibiliser les jeunes à la fois au traitement de l'information et à la fabrique de l'information, donc tout ce qui est éducation aux médias et à l'information, et aussi au son, et le plaisir de parler dans le micro, de s'entendre, de construire ensemble, puis d'être dans l'écriture sonore. Donc on espère que ça va créer des vocations.
Et ben oui, parce que pour que la radio continue d'évoluer, il faut aussi qu'on ait des nouveaux adhérents, des nouveaux bénévoles qui viennent essayer des nouvelles choses auxquelles on... n'aurais pas pensé.
Donc j'arrive à la fin, on va peut-être conclure sur ces échanges, du coup, quel avenir pour la radio. Avenir dynamique, Stéphanie, tu parlais de ça tout à l'heure, ça passera par le rajeunissement de nos adhérents.
Pas que, parce que je pense que c'est bien que les anciens restent, ils sont là avec une histoire et ils ont des choses à apporter aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit cet espace de mixité, en tout cas, où
intergénérationnel.
Oui, intergénérationnel, multiculturel, où il y a des points de vue qui se croisent et où chacun s'apporte des choses autour du média radio. Voilà.
Pascal ?
L'avenir. Enfin, nous ici, enfin, en Mayenne, à Mayenne et à France Bleu, c'est clair qu'on y travaille, on y réfléchit depuis des années et on se rend bien compte, par exemple, les réseaux sociaux sont hyper importants. Donc, il y a énormément d'informations aujourd'hui sur les réseaux auprès de France Bleu. Il y a des collaborations parce qu'aujourd'hui, on sait que l'image, c'est quelque chose de très important. Pourtant, quand je suis rentré à la radio, mon but, c'était d'être qu'une voix. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, dans 2024...
Vous êtes aussi un visage.
On veut aussi
on parlait de physique
visage.
De radio à l'époque. Hein. C'était une blague, d'ailleurs.
C'est terrible. Et aujourd'hui, on se rapproche, par exemple, de France 3. On va travailler en collaboration. On fait les matinales filmées, par exemple, où on peut retrouver l'ambiance des studios à la télé. Au début, on ne sait pas trop ce que ça a donné, et on s'aperçoit qu'on est regardé, on est écouté en étant à la télé. Et c'est vrai que voilà, on essaye vraiment d'évoluer et de faire progresser le média radio, mais qui va devenir un média global, quoi, finalement. Télé, radio, numérique, voilà, pour faire plus qu'un, pour toucher un maximum de personnes, quoi.
On voit bien qu'il y a des émissions télévisuelles aussi qui sont rapportées en radio. Enfin, je pense à Arte Radio qui diffuse des émissions d'Arte. Voilà. Donc oui, il y a un effet. On ne séparera peut-être plus les médias, mais il faudra.
C'est vrai que nous, on ne réfléchit plus que radio maintenant. Enfin, avant, on parlait vraiment que radio. Okay. Maintenant, on est vraiment obligé de. Voilà, tout sujet qui est développé à l'antenne doit être présent sur le numérique. Et on doit également pouvoir communiquer également à la télé avec France 3, par exemple.
Mais il y a aussi des chaînes de télévision qui se saisissent des fréquences DAB+. Donc, on est aussi dans, inversement dans des. Voilà, faut faire croître son média dans tous les sens. Christophe, l'avenir de la radio ?
Eh ben, je ne vais pas paraître pour un vieux con, enfin j'espère. On parlait à l'instant avec Pascal Fauché d'image, tout ça. Moi, j'ai un regret par rapport à ce qu'on nous vend actuellement. C'est la fameuse radio numérique terrestre qui va arriver. Alors, sans abonnement, on s'est promis, mais on nous avait promis la même chose pour la télé nationale terrestre. On a dû acheter un décodeur derrière. Peu importe, on a associé aujourd'hui l'image au son. Personnellement, je trouve ça dommage. J'étais enfant ravi d'entendre des voix. Je crois que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. Alors c'est un petit peu l'inverse qui pourrait se séduire. Mais voilà, j'ai ce regret-là, mais de toute façon, je ne vais pas aller contre les technologies. Je suis en revanche très positif et optimiste sur l'avenir des radios de proximité, comme France Bleu, comme l'autre radio, parce que, comme on l'a rappelé au cours de ces échanges, ça fait vivre le territoire, ça fait vivre mon réseau. Il y a une enquête qui a été faite par l'économie sociale et solidaire, je crois, sur la culture en général, et on en fait partie. Il ne faut pas toujours regarder les retombées immédiates en termes ou d'auditeurs ou de finances. On fait vivre un réseau et ça rapporte beaucoup plus d'argent que on ne le pense. On fait faire des économies, notamment à la sécurité sociale. Donc, je suis globalement optimiste pour les radios de services publics et associatifs de proximité.
Ah, disons qu'on crée une richesse qui n'est pas chiffrable en euros. Voilà. Delphine ?
Alors oui, sur l'évolution. Alors, j'ai envie de penser que chaque média évolue aussi avec son temps et qu'effectivement, aujourd'hui, il est nécessaire de travailler sur d'autres types de supports. Je pensais aux podcasts aussi, hein, qui sont une autre forme d'écoute aussi. Et puis, on a bien vu en quelques années le poids pris du coup par l'univers des podcasts. Et j'ai envie de croire que oui, l'information de proximité, elle est encore essentielle. Et puis, on est aussi créateur de liens au travers de tout ça, que ce soit dans le tissu associatif, auprès de nos auditeurs, auprès de nos bénévoles. Et que ça, c'est encore quelque chose qui donne du sens et qui aura du sens aussi encore à terme. Donc, j'ai envie d'être, voilà, de positive aussi, et puis un avenir dynamique.
Et ça restera toujours magique, la radio, malgré tout.
Ah oui. Valentin, est-ce que tu veux bien, du coup, avoir le dernier mot
quel honneur. moi, je suis ultra positif sur l'avenir de la radio et du son en règle générale, et je trouve que la thématique choisie par UNESCO là est super intéressante, parce que ça rappelle, en tout cas c'est une bonne valorisation de la radio, parce que ça rappelle que c'est le média de masse le plus vieux, libre, gratuit, accessible à tous. Ça changera pas avec le DAB+, ça restera, on peut pas faire de payant via le DAB+. Et aujourd'hui, il y a quand même un élan créatif dans le sonore. Delphine a parlé à juste titre du podcast, qu'on retrouve, nous, dans les radios associatives. On voit des nouveaux créateurs et créatrices, beaucoup, qui arrivent et qui font des choses ultra intéressantes. Et à côté de ça, si on compare aux autres médias, on voit quand même des gros groupes de presse, des gros groupes de médias, et un manque de diversité, de pluralisme. Et en fait, j'ai l'impression que là, la radio, c'est un peu l'espace de création et de diversité sur l'ensemble des médias qui est intéressant. Donc, ouais, je pense qu'il y a de l'avenir pour ce média et pour la forme vraiment sonore.
Merci beaucoup Valentin pour ce dernier mot très positif. Moi, ça me va. Merci beaucoup donc Valentin Beauvalet, directeur de la FRAP, Christophe Feuillet,
fondateur de l'autre radio, Pascal Fouché, responsable des programmes à France Bleu Mayenne, Stéphanie Pacro, coprésidente de l'autre radio, et Delphine Gatineau, ancienne coordinatrice de l'autre radio, qui lui a donné son élan et actuellement trésorière. Merci à tous pour les mots partagés, vos points de vue et ce moment radiophonique.
Voilà, c'est la fin de cette émission, émission spéciale autour des radios associatives, programmée spécialement dans le cadre des semaines, de la semaine des radios associatives. Il y a encore une émission spéciale demain, la JT, qui aura lieu hors les murs et qui sera réalisée et diffusée en public et en direct du centre social Nulle Part Ailleurs à Cran. On retrouve tout de suite la playlist éclectique de notre programmateur préféré, c'est-à-dire j'ai nommé Joël Flambard. Et je vous donne rendez-vous ensuite à 18h15 pour la rediffusion de l'AJT qui a été réalisée et diffusée en direct de la maison de quartier d'Avenir ce midi. À 19h, c'est Gold Soul Terry. Et All Blues à 21h comme d'habitude. Très belle fin de journée à vous et on se retrouve le 21 mars qui sera la journée internationale pour l'élimination de la discrimination et on fera une émission spéciale autour des semaines d'éducation contre les discriminations. À bientôt sur les ondes de l'autre radio.